Web, Juliette Rangeval.
Il y a 50 ans, le 3 février 1975, s'éteignait l'étoile de l'Orient, Oum Kalsoum, si vous voulez le prononcer à la française. Adulée de son vivant par Nasser et par tout le peuple égyptien, sa voix a accompagné tous les changements du monde arabe, toutes les luttes du panarabisme aux engagements féministes. Pour évoquer ce parcours politique et militant, nous recevons cette semaine Isabelle Sayabodis, autrice de nombreux ouvrages sur la diva. Je vous recommande Oum Kalsoum, l'étoile de l'Orient, qui vient d'être édité en poche chez Litos. En notre compagnie également, Nadia Atroubi-Safsaf, qui a publié Oum Kalsoum, naissance d'une diva. Très beau roman graphique avec Shadia Shaibi-Louslati, chez Jean-Claude Lattès.
ويصل مندوب السيد الرئيس محمد أنور السادات رئيس جمهورية مصر العربية ليشارك في وداع ابنة مصر العربية بنت أرضها الطيبة أم كلثوم.
Bonjour Isabelle Sayabodis.
Bonjour Juliette.
Oum Kalsoum meurt le 3 février 1975, 5 ans après Gamal Abdel Nasser, le leader égyptien. L'un et l'autre auront été la voix et l'espoir du monde arabe. À leur mort, ce sont d'immenses cortèges funéraires qui vont envahir les rues du Caire. Le 5 février 1975, pour l'enterrement d'Oum Kalsoum, tout le monde est là, les puissants comme les plus modestes. C'est une vraie marée humaine. Ce sont des scènes assez extraordinaires.
C'est très émouvant. Ce sont des millions de personnes quoi, qui ont accompagné à leur dernière demeure. Ce qu'il y a de plus rare, c'est qu'il y a toujours le côté homme et femme dans ce monde musulman. Et que là, c'était la femme qu'on portait à sa dernière demeure, donc plus rare.
Et ce couple avec Nasser, est-ce qu'on peut revenir dessus ?
Alors, en fait, ce couple avec Nasser peut paraître bizarre avec nos yeux d'occidentaux, mais assez fréquent avec nos yeux orientaux. C'est-à-dire que musique, genre de savoir qui s'allie au pouvoir, c'est quelque chose de tout à fait normal. Un gouvernant éclairé a ses intellectuels, ses chanteurs avec lui. Et avec Oum Kalsoum, ça a pris une dimension phénoménale puisque elle a accompagné Nasser depuis le début, c'est-à-dire depuis 48 où elle l'a rencontré. Et Nasser a senti que il avait une personne, femme, intelligente, qui pouvait l'accompagner du mieux qu'on pouvait, quoi. Donc, ils se sont servis mutuellement et ils servaient aussi le peuple, la cause, l'Égypte, les valeurs qu'ils défendaient. Donc, si vous voulez, moi, je trouve que c'était un duo efficace.
At the end of September 1970, Gamal Abdel Nasser died of a heart attack. For 16 years, he had led Egypt. Oum Kalsoum received the news in Moscow, where she had gone to perform. She cancelled her concerts and flew home.
Est-ce qu'on peut expliquer comment ils se sont servis l'un de l'autre ?
En fait, ils se sont servis l'un de l'autre parce que, on remet un peu dans le contexte politique, c'était des gens opprimés, qui n'avaient pas eu de gouvernants égyptiens depuis le temps des pharaons qui vivaient sous oppression étrangère. Donc, si vous voulez, il y a eu une circonstance qui faisait que tout arrivait en moment, la révolte grondait, la technique arrivait, ces deux esprits éclairés se rencontraient, la radio naissait, la fameuse radio qui va devenir le vecteur de leur propagande. Mais en fait, pour servir la cause, pour servir le peuple, pour servir la fierté, tous les Arabes se sentaient opprimés, étaient colonisés, se sentaient opprimés. Et là, tout d'un coup, il y a une femme qui chante la fierté, un type qui veut redonner espoir aux siens. C'est le bonheur des conjonctions de faits, de techniques et d'intelligence.
Thank you.
elle a compris qu'il fallait pas être comme les autres, c'est-à-dire qu'il fallait pas tomber dans les chansons légères, grivoises et courtes. Donc elle a fait du lourd, du sacré,
du long,
de la nation. Elle a senti tous ces mouvements qui traversaient l'Égypte, quoi, les mouvements de libération, de révolte, le féminisme. Elle a senti tout ça.
Et elle Mais elle chantait tout quand ça. Même pour les puissants.
Elle chantait pour les puissants ou pour le peuple. Elle a chanté tous les gens qui incarnaient l'Égypte. Elle a chanté plus la cause égyptienne que l'incarnation. Et évidemment, avec Nasser, tout collé, quoi. La liberté, la fierté, relever la tête, porter une voix, parler de la cause arabe. Vous savez, il y a une très belle phrase qui dit, c'est Tawfik al-Hakim, qui dit, pour mettre d'accord plusieurs Arabes, il faut parler d'Oum Kalsoum.
Elle chante l'âme arabe et sa voix séduit les plus grands artistes de son temps, comme le poète Ahmed Rami, qui va lui composer plus de 137 chansons.
Elle chanta d'une façon telle qu'elle me fascina au point que je faillis pleurer en l'écoutant. J'ai entendu une voix d'une douceur, d'une maîtrise, d'une puissance incomparable. Elle chantait avec une telle émotion qu'il n'était pas rare de la voir pleurer en scène au cours d'un récital.
Kalsoum était faite aussi pour oublier son pauvre quotidien. Il y a une octave, vous savez, les blagues égyptiennes qui sont si jolies, qui racontent comment va l'Égypte. Très bien, 3 jours de football, 3 jours d'Oum Kalsoum, 1 jour de viande. Donc, si vous voulez, elle faisait oublier les difficultés, la pauvreté, les frustrations. Elle faisait rêver, elle faisait croire à cet amour humain, divin. Mais tout est relié. Il y a un côté très soufi. L'amour humain peut mener à l'amour divin et plus on le chante, plus on s'enivre. Donc évidemment, il y a un côté opium. Mais l'opium a existé dans tellement de civilisations. C'était pour soigner des maux qui existaient. Donc pourquoi pas soigner avec des chansons qui sont belles, qui vous transportent et qui consolent et qui vous font oublier votre pauvre quotidien. En fait, les Arabes étaient tellement frustrés, accablés, que eux, ils leur ont dit qu'ils étaient l'avenir, qu'ils étaient grands, qu'ils étaient puissants, qu'ils étaient dans le mouvement de l'histoire, quoi, qu'ils subissaient pas.
Même après la guerre des six jours, là, on se souvient de cette série de concerts qu'elle donne.
Après la guerre des six jours, elle entreprend une tournée pour enflouer les caisses de l'État. Elle demande à toutes ses amies célèbres et riches de participer. Donc, elle vient à Paris, la seule ville occidentale où elle chante. On y voit l'influence de son poète maudit et chéri Ahmed Rami qui avait étudié en France. Et elle loue l'esprit de liberté de Paris. Et à Paris, un genre de phénomène avec un cachet astronomique qui sert à renflouer les caisses de l'État.
Le concert permet de récolter des fonds, mais il prend aussi une signification de démonstration de fierté arabe, comme s'en souvient ce spectateur de l'époque dans ce documentaire de Feriel Ben Mahmoud et de Nicolas Daniel.
J'y suis allé à cause un peu de ce contexte et j'ai vraiment ressenti quelque chose de très très fort, cette communion qu'avaient tous ces Arabes de Paris et qui retrouvaient une sorte de sentiment de dignité, un sentiment de, d'unité face à ce traumatisme. On sentait que dans ce récital, l'enjeu dépassait de loin le côté musical.
Elle est femme politique. Elle a un passeport diplomatique. Elle ne paye plus d'impôts. Elle est régnante. Quand on pense à aujourd'hui, on se dit quelle chance. Et comme on aimerait bien en avoir une autre ou des autres. Parce qu'elle a fait avancer les choses, Oum Kalsoum, quoi. Et elle guidait les gens. Moi, je pense qu'elle avait une intelligence folle et un charisme aussi. Donc déjà, elle était femme, avec toutes les pesanteurs que ça implique. Femme, pauvre, paysanne, fille d'imam, elle avait tous les handicaps, quoi. Et elle a retourné ses handicaps. Et en fait, avec Nasser, ils sont fait un peu le même jeu. C'est-à-dire que toutes les défaites arabes, ils les ont transformées en victoire, en fierté, en affirmation de l'identité égyptienne et arabe. Elle est chanteuse, mais elle est aussi femme politique, quoi. Elle a un rôle politique important. Elle est féministe, donc c'est-à-dire qu'elle dit aux femmes « Allez-y, jetez vos voiles. » Pas jeter un voile parce que c'est un voile, mais jeter un voile pour plus être prisonnière d'un bout de tissu. Prenez le pouvoir, travaillez, vous êtes la moitié de l'humanité. Donc si vous voulez, moi j'aimerais bien qu'il y en ait d'autres. Alors ce qui me rassure, c'est qu'elle est toujours là, qu'elle guide toujours, qu'on l'écoute toujours. Mais enfin, c'est vrai que elle est morte il y a 50 ans. Elle continue d'exister, mais si vous voulez, la relève à son niveau, il n'y en a pas.
Elle va laisser ses fans éplorés comme Omar Sharif. On retrouve d'ailleurs sa lettre en postface de votre livre « Oum Kalthoum, l'étoile d'Orient ». Merci Isabelle Sayabodis.
En Orient, une journée sans Oum Kalthoum n'aurait plus de couleur. Certes, ses titres honorifiques et ses décorations ont perdu de leur prestige. Ses surnoms n'ont pas trouvé de remplaçante digne d'elle. Ses éternelles lunettes noires n'ont plus de regard à dissimuler. Tout ce qui faisait le personnage a disparu, mais elle demeure.
Bonjour Nadia Atroubi-Safsaf.
Bonjour.
Oum Kalthoum, chanteuse, engagée, féministe. Quelle place trouve-t-elle dans le monde musulman d'aujourd'hui ?
Aujourd'hui, on voit que la première chose qu'ont fait les talibans en Afghanistan, c'est d'essayer de faire taire les femmes. Donc c'est assez intéressant de mettre en parallèle ce que dit Oum Kalthoum, qui était une chanteuse, et de faire le parallèle avec ces talibans qui veulent faire taire les femmes. Plus que jamais, le combat des femmes est important. On aurait pu penser qu'en 2025, on n'en serait pas là, à devoir encore lutter pour nos droits, mais partout, le droit des femmes est en recul.
Pas simplement dans le monde arabe, vous êtes en train de me dire.
Mais c'est inquiétant, pas seulement dans le monde arabe, dans le monde occidental. C'est-à-dire que les premières qui sont victimes d'oppression, quelle que soit la civilisation, quelle que soit la période, ce sont toujours et encore les femmes.
Quand Oum Kalthoum dit « Mes sœurs, dévoilez-vous », c'est perçu comment par la rue arabe ?
Alors, c'est une période où le voile n'avait pas la place qu'il a aujourd'hui. C'est-à-dire que quand je regarde les photos de l'époque, que ce soit en Tunisie, en Algérie, au Maroc, le voile n'est pas quelque chose de banalisé. Ce sont plutôt les personnes âgées qui ont fait le pèlerinage à la Mecque et qui décident, en revenant de ce cinquième pilier de l'islam, de se couvrir. Mais sinon, personne quasiment ne porte le voile. Et on voit qu'il y a eu une régression au fur et à mesure des années. Mais encore une fois, pour moi, c'est un patriarcat qui ne dit pas son nom. Je veux dire, c'est toujours les hommes qui veulent couvrir les femmes. Ce n'est pas les femmes qui couvrent les femmes, ou alors très peu.
Revenons à Oum Kalthoum. Est-ce que c'est une femme qui est très en avance sur son temps, ou est-ce qu'en fait c'est bien une femme de son temps et de cette époque où effectivement il y avait peut-être plus de liberté pour les femmes dans le monde arabe ?
Alors au départ, Oum Kalthoum, elle arrive au chant déjà par la récitation du Coran, et donc elle est habillée en homme. Pendant très longtemps, elle est habillée, travestie en homme. Et c'est à l'âge de seulement 26 ans qu'elle peut se produire sur scène, habillée en femme. Et ce qui a donné une très belle planche de Shadia Lousleti dans la BD Oum Kalthoum, la naissance d'une diva, c'est qu'on voit Oum Kalthoum qui enlève au fur et à mesure son turban et ses vêtements d'homme pour reprendre son identité de femme. Et la première fois où elle s'est produite sur scène, elle va voir son père en lui disant « Tu vois, il ne s'est rien passé, j'avais raison, tu craignais qu'il se passe quelque chose en étant habillée en tant que femme. » Et en fait, son frère lui montre en souriant un panneau qu'avait fait installer son père devant la scène où il avait écrit « Ne pas toucher ». Voilà, j'aime bien cette anecdote.
Après, elle va faire toute sa vie, finalement aussi entourée d'énormément d'hommes, quand elle est avec Nasser, mais quand elle est au milieu de la troupe, au milieu des militaires, en permanence, on la voit très souvent sur des images, elle est parmi les hommes.
Elle est parmi les hommes, mais elle a toujours eu cette ambivalence d'être et à la fois en avance et être à la fois conservatrice. Par exemple, elle va se baigner baigner à la plage en maillot de bain, chose assez rare pour l'époque. Et elle va être photographiée par un photographe et donc elle va tout faire pour faire empêcher l'apparition des photos dans la presse. Donc il y a à la fois ce désir de liberté de se baigner dans la mer et à la fois ce besoin de contrôler son image de femme un peu austère, conservatrice. Et c'est pour ça que personne ne remet en doute le fait qu'elle soit coquette ou qu'elle joue un rapport de séduction avec les hommes, parce qu'elle a toujours cette attitude un peu austère. Donc quand elle est entourée du général ou qu'elle est entourée des soldats, eux voient une espèce d'icône intouchable. Mais très vite, elle embrasse aussi un style qui permet de mettre à distance. Alors les gens se trompent quand ils pensent que, par exemple, elle met des lunettes de soleil pour mettre à distance les gens ou pour une aura de mystère. C'est beaucoup plus pragmatique que ça, c'est qu'elle a des problèmes aux yeux et que du coup, elle est obligée de porter des lunettes. Mais ces lunettes noires créent une sorte de paravent entre elle et les gens et un regard un peu austère. Donc les gens n'osent pas.
Il y a Oum Kalthoum du cinéma, Oum Kalthoum de la scène. La femme, elle était comment ?
Il paraît très autoritaire. Il paraît qu'elle était autoritaire, avare. Du coup, ça donne...
C'est un portrait pas très flatteur.
Mais très consciente de ses droits et très consciente aussi de ce qu'elle pouvait faire pour les autres filles. Par exemple, elle a œuvré pour offrir des bourses aux petites filles de son village pour qu'elles puissent étudier. On comprend qu'elle est dans la volonté d'émancipation des femmes parce qu'elle a connu ce désir d'émancipation puisque quand elle était petite fille, il n'y a que son frère Khalid qui va à l'école coranique et elle, elle supplie son père de pouvoir aller à l'école coranique et ce n'est pas du tout dans les intentions de son papa. Et c'est sa maman aussi qui va convaincre le père de pouvoir l'emmener à l'école coranique en disant qu'elle travaillera plus et qu'elle ira ramasser plus de fleurs de coton pour permettre à Oum Kalthoum d'étudier. Et souvent, on oublie quand même aussi, et pour moi c'est hyper important de le dire, c'est que je pense que le père d'Oum Kalthoum est un féministe qui s'ignore. On est quand même dans les années 20. Quel père quitte son village pour accompagner sa fille au Caire? Vous imaginez? En fait, c'est un énorme sacrifice pour accompagner le rêve d'Oum Kalthoum. Donc, on est sur un père, pour moi, féministe.
Comment est-ce que Oum Kalthoum est reçue à l'époque par le public féminin ?
Il y a très peu de chanteuses qui sont capables à la fois de séduire les hommes et de séduire les femmes qui ne la voient pas comme une concurrente. C'est là où elle est très intelligente. Les femmes n'ont pas peur d'elle, parce qu'elles estiment à tort qu'elle n'est pas plus séduisante qu'elle, mais elles sous-estiment le pouvoir de sa voix et le charme de sa voix, puisque de nombreux hommes tombent amoureux d'elle. Et Nasser, le général, quand elle va être interdite de radio suite à l'abdication du roi Farouk, c'est lui qui va appeler la radio en disant « Mais c'est quoi cette histoire? Vous me remettez tout de suite Oum Kalthoum à la radio. » Donc, elle charmait les hommes d'une autre manière. Alors peut-être qu'aujourd'hui, on dirait que c'était une sapiosexuelle, par exemple.
Ah, Oum Kalthoum sapiosexuelle. On peut imaginer ça. Est-ce qu'aujourd'hui, les femmes ou les hommes qui l'écoutent encore dans le monde arabe, qu'est-ce qui les séduit ?
Alors, il y a un proverbe tunisien qui dit qu'on commence à apprécier Oum Kalthoum quand on vieillit. Je pense qu'aujourd'hui, on écoute encore Oum Kalthoum parce que c'est une certaine idée aussi du monde arabe. C'est une fierté du monde arabe. C'est-à-dire qu'elle nous a permis aussi, en étant cette diva, de se réapproprier notre culture arabo-musulmane qui est souvent très mal menée dans les médias. Et donc, on a besoin de ce beau. Et en fait, elle, elle transmet ce beau. Et en même temps, c'est un lien avec nos pays d'origine. Qu'on soit enfant issu de l'immigration tunisienne, algérienne, marocaine, nos parents ont toujours écouté Oum Kalthoum. Donc, c'est aussi un creuset pour nous, un creuset de notre identité.
Merci beaucoup, Nadia Atroubi-Safsaf.
Merci.
Carrefour du Maghreb, à la réalisation, Françoise Gorlot.